parole du jour avec le Père Willem.
L'amour jusqu'au bout. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 29. Revoilà la foule à travers les passants. Elle injure et nargue Jésus. Elle l'a déjà tué une fois en le livrant, crucifie-le. Mais ce n'est pas suffisant. Elle s'acharne sur sa proie, crachant le venin de sa déception face à ce soi-disant sauveur bien faible, puisqu'il est incapable de se sauver lui-même. Marc nous dit clairement que tout cela est blasphème, mais la foule n'en est absolument pas consciente. Les grands prêtres et les scribes aussi veulent achever leur proie et savourer leur victoire. Ils discutent entre eux, se gaussant de leur supériorité, sûrs d'eux-mêmes et de leur bon droit. Vous voyez bien qu'il n'est pas le Messie, ni le roi d'Israël. Il est incapable de se sauver lui-même. Maintenant, tout le monde a la preuve que nous avions raison. On peut même les imaginer riant de bonnes blagues après s'être exclamé « Qu'ils descendent de la croix pour que nous voyions et croyons ». Mais Jésus n'est pas ce genre de Messie qui se sauve lui-même, ni non plus celui qui accule à la fois par des manifestations spectaculaires, comme descendre de sa croix. Pour qu'ils voient et qu'ils croient, ils ont vu tant de guérisons, croient-ils? Jésus est celui qui monte sur la croix et qui ne se sauve pas lui-même, afin que tous soient sauvés. Oui, le salut pour tous, même ceux qui sont crucifiés avec lui l'outrage. Est-ce une façon de se sentir moins seul, une façon de décharger leur colère face à ce qui leur arrive sur un bouc émissaire? Une dernière tentative de faire partie du groupe, de ne pas être exclu. Alors pourquoi sont-ils si acharnés? La majesté et la dignité du crucifié ne les brûle-t-elle pas? Ne sent-il pas combien ce crucifié est différent? Que c'est l'amour et non les clous qui le maintiennent fixé sur la croix. Tout ce mépris nous monte à la gorge, comme il a dû le faire pour Pierre, nous donnant envie de vomir. Le désespoir envahit tout, l'injustice hurle en nous. La sixième heure venue, nous dit l'Évangile, une ténèbre survient sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus clame d'un grand cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains des assistants entendent et disent, « voilà, il appelle Élie. » Alors quelqu'un court, imbibe une éponge de vinaigre en disant « Laissez, laissez, voyons si Élie vient le descendre. » Alors Jésus laisse échapper un grand cri, il expire. Pas étonnant, ces ténèbres. On les a vus nous envahir par contamination successive au fur et à mesure de la passion, on les sent de plus en plus oppressantes. Nous voilà au cœur de l'expérience de Pierre. Nous ne savons pas s'il y a eu réellement un phénomène météorologique. L'important, c'est de coller au vécu de Pierre. Il ne voit plus rien, plus aucun visage, ni ceux qui le violentent, ni Jésus. Pour lui, la violence a tout envahi. Cette ténèbre sur la terre entière nous rappelle aussi le début de la création, quand la terre était tohu-bohu, c'est-à-dire déserte et vide, et que la ténèbre était à la surface de l'abîme. Vous voyez le chapitre 1er de la Genèse. L'humanité qui crucifie son Dieu, c'est la création qui retourne au chaos, privée de son humanité au sens noble du terme. La ténèbre totale a duré 3 heures dans le récit, mais Pierre n'en dit qu'une seule phrase. Une ténèbre survient sur la terre entière. Une seule phrase, mais elle exprime tellement bien ce qu'on peut ressentir quand on traverse des moments de dépression ou de grande souffrance. Les ténèbres prennent toute la place et semblent durer, comme si on n'allait jamais en sortir. Plus de perspective, l'avenir est bouché. Ce cri de Jésus retentit comme un glas. Nous sortons de l'hébétude dans laquelle nous avait plongé les 3 heures de ténèbres. Marc, Pierre, nous vous remercions. Oui, merci de nous avoir transmis ce cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il ne s'adresse plus à lui comme durant sa vie en disant « Abba, Père ». Au milieu de ses souffrances et de cette injustice abjecte, il rejoint l'humanité tout entière qui crie vers Dieu. En effet, le mot « Eloi, Eloi » vient de l'Elohim. C'est un pluriel qui est le terme générique pour exprimer la divinité comme au début de la Genèse. Il est utilisé aussi bien par les Juifs que par les païens. Ce cri de Jésus est aussi celui de ceux de Pierre et des disciples. C'est le cri de tous ceux qui perdent un être cher. C'est celui de tous ceux qui souffrent et n'en peuvent plus, pour quelque raison que ce soit. Le cri des souffrants menés au bout de la souffrance. C'est le cri de ceux qui veulent vivre l'esprit de la non-violence et qui se sentent coincés au milieu de la souffrance extérieure ou de celle de leurs abîmes intérieurs. C'est le cri de l'humanité au cœur de la violence. Ce cri-là, Jésus l'a habité. Il l'a vécu comme chaque souffrant dans son corps, pas pour de faux, ni pour faire semblant. C'est le cri de Jésus, et dans ce cri résonnent les cris de tous les hommes, du premier au dernier. Trop souvent, on voudrait effacer cela et présenter un super Jésus qui passerait allègrement au-dessus de tout, mais ce ne serait plus un être humain. Ici, nous voyons combien ces ténèbres de la violence ont affecté Jésus et même sa relation à Dieu. Il n'aperçoit plus, il ne parvient plus à maintenir le contact avec le Père, comme s'il avait été abandonné, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mais Jésus ne fait pas demi-tour, il ose le pas, sans assurance. Même dans ce vide apparent, il s'adresse à Dieu. Sa foi en lui est plus forte que le doute dû à l'absence de perception, de solution ou l'apparente victoire de la ténèbre. Est-ce aller trop loin que de dire ici que pour Jésus, un Dieu l'a bel et bien abandonné, plus précisément une certaine image de Dieu. Qu'à la croix, Jésus découvre que le seul Dieu présent à ses côtés est le Dieu qui meurt avec lui et non pas celui qui pourrait lui éviter la mort. Derrière ce cri de Jésus, c'est le début du psaume 22 qui affleure. Ce premier verset est une parole célébrant. Dans la tradition juive, le célébrant entame le premier verset du psaume et les fidèles continuent avec lui. C'est donc une façon de lancer l'assemblée dans la prière de ce psaume. Au moment où il va mourir sur la croix, après ses traversées des ténèbres, Jésus ébauche le psaume le plus messianique de la Bible pour nous donner le sens ultime de l'événement. Il n'a plus la force de faire un discours, mais voilà ce qu'il nous dit. La première partie décrit en des termes poignants cette traversée des ténèbres, de la violence que Jésus vient de vivre, comme il nous livrait son vécu intérieur.